On va peut-être commencer. Alors, déjà, bienvenue donc, à ce deuxième cours sur la génétique des populations chez les vertébrés. Merci si vous étiez déjà là la semaine dernière, sinon merci d'être venu cette semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a discuté surtout des effets du sexe et de l'âge des parents sur le nombre et le type de mutations dont hérite un enfant. Et surtout de données récentes hein, qui montrent que peut-être qu'une grande partie des mutations, mutations germinales, pourraient finalement ne pas avoir une origine réplicative, mais plutôt être dues à des dommages qui ne sont pas réparés correctement. Aujourd'hui, on va plutôt laisser côté, du moins pour la majeure partie, la question de l'origine des mutations. Et on va se concentrer plutôt sur le taux d'apparition des mutations par génération et sur la manière dont ce taux de mutation peut être utilisé pour dater les événements évolutifs. Le fait que la mutation puisse servir et serve d'horloge évolutive. Alors, comme on va le voir, on a maintenant des estimations depuis à peu près 8 ans, des estimations récentes du taux de mutation qu'on obtient de manière beaucoup plus directe à partir de pédigrés et qui suggèrent des taux de mutation beaucoup plus bas qu'on ne le pensait ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et ces nouvelles estimations du taux de mutation impliquent, en apparence du moins, des temps de séparation entre les espèces de primates bien plus anciens qu'on ne le pensait, et souvent des dates qui sont difficiles à réconcilier avec du moins ce qu'on sait des données fossiles. Mais comme nous le verrons en fin de cours, cette vision des choses est en fait un peu trompeuse, parce que la conversion des taux de mutation en date évolutive s'avère beaucoup plus compliquée qu'on ne l'appréciait pareil il y a 10 ans à peu près. Et donc nous finirons le cours par une discussion de la manière dont on pourrait éventuellement réconcilier les données génétiques et paléontologiques. Et puis après le cours, on écoutera le point de vue complémentaire de l'éminent spécialiste de cette question en paléontologie, Michel Brunet. Alors commençons par discuter de comment on estime le taux de mutation déjà à partir de pédigrés et surtout de ce que ce nombre représente. Alors comme on en a discuté la semaine dernière, les mutations héréditaires résultent de modifications accidentelles du génome qui se produisent lors du développement de la lignée germinale et de la production soit d'ovules, soit de spermatozoïdes. Donc une définition logique du taux de mutation par génération, c'est le taux auquel apparaissent des différences entre le génome d'un zygote nouvellement formé et les gamètes qu'il est potentiellement amené à produire. Comme chez l'homme, on n'a pas accès aux zygotes, et il est extrêmement difficile d'étudier des ovules ou des spermatozoïdes individuellement, cette quantité exacte qu'on voudrait obtenir n'est pas facile à mesurer, voire impossible à mesurer. Mais ce qui est récemment devenu possible, c'est d'estimer une quantité qui s'y rapproche fortement, notamment le nombre de mutations qui sont observées dans le tissu d'un enfant, mais absentes chez ce tissu chez les parents. Donc plus d'une douzaine d'études ont maintenant estimé ce taux de mutation en reséquençant l'ensemble du génome chez des parents et des enfants. Toutes ces études, avec presque aucune exception, sont basées sur des échantillons de sang qu'on a prélevés donc, dans un trio, les parents et l'enfant, et qui a permis d'obtenir le nombre de mutations qui sont présentes chez l'enfant mais absentes chez les parents. Et on en a parlé beaucoup plus longuement la semaine dernière. Pour obtenir un taux de mutation, on prend ce nombre de mutations, on a besoin d'un dénominateur. Ce dénominateur représente le nombre de paires de bases à laquelle on pense pouvoir détecter des mutations germinales, donc où on a une grande puissance statistique pour pouvoir détecter ce genre de changement. Donc soit on estime le sous-ensemble de paires de bases où cela est possible, soit on divise par la longueur complète du génome, mais en essayant de tenir en compte de la puissance statistique qu'on a à une position donnée dans le génome. Il est important de noter que le taux de mutation germinale est très faible. Il est de l'ordre, on le verra, de 10 puissance moins 8 par paire de bases par génération. Et on essaye d'estimer ce taux avec des technologies où les erreurs aléatoires de séquençage sont d'environ 10 à la puissance moins 2 par les curves de séquençage. Donc on a une difficulté à identifier des mutations de manière fiable, surtout en présence de variations cryptiques dans le nombre de copies de certains gènes, d'incertitudes d'alignement par rapport au génome et d'autres facteurs confondants. Donc, toutes ces méthodes de détection ont nécessairement un taux de faux positifs élevé. En conséquence, on est obligé d'utiliser un ensemble rigoureux, mais finalement assez arbitraire, de filtres sur la profondeur de lecture, la balance allélique, c'est-à-dire la proportion de lecture de séquençage qui porte la mutation, etc., pour soit éliminer ou du moins minimiser les erreurs potentielles. Et ce processus de filtrage agressif augmente considérablement la spécificité. Donc, on trouve de moins en moins de faux positifs, enfin, du moins dans l'idéal, mais diminue le nombre de sites sur lesquels des mutations pourraient être détectées. Donc, il devient très important pour chaque ensemble de filtres d'évaluer la puissance statistique qu'on a vraiment. Tout ça pour vous dire que, alors qu'en apparence, c'est très simple de voir s'il y a des différences entre les enfants et les parents, en fait, c'est le produit de toute une série d'analyses bioinformatiques où on fait des choix par rapport aux filtres imposés. Comme nous en avons discuté la semaine dernière, une complication supplémentaire est la présence de mutations entre guillemets mosaïques, hein, c'est-à-dire de génotypes ou plus dans une population donnée de cellules. Moi, j'aime pas trop le terme mutation mosaïque, malgré le fait qu'il soit beaucoup utilisé, parce qu'il n'est pas très bien défini dans le sens où, à proprement parler, toutes les mutations de la lignée germinale sont des mutations mosaïques, sauf si elles se produisent dans la dernière division cellulaire avant la formation du gamète et donc finissent par se trouver que dans une ovule ou un spermatozoïde. Mais en pratique, le terme mosaïque fait souvent référence aux mutations qui sont survenues dans le développement du zygote avant la différenciation sexuelle plutôt que dans la production d'ovules et de spermatozoïdes. Donc, si elles sont portées par les cellules germinales, ces mutations mosaïques devraient être incluses dans l'estimation du taux de mutation germinale par génération. En pratique, toutefois, ni les parents ni les enfants, encore une fois, ne sont échantillonnés en tant que zygotes. C'est des échantillons de sang dont on se sert. Et ce qui est important, c'est qu'en faisant ça, en utilisant des échantillons de sang, on inclut certaines mutations qui sont apparues au cours du développement des enfants, surtout au début. Et du coup, on exclut une fraction de mutations qu'on devrait inclure qui sont apparues dans le développement des parents. Et la conséquence sur le nombre estimé de mutations par génération dépend de plein de choses qu'on ne connaît pas très bien. Elle dépend des filtres précis, elle dépend du taux d'erreur de séquençage et elle dépend du taux de mutation par division cellulaire à différents stades du développement. Donc, on ne sait pas trop quel est l'effet net de tous ces filtres imposés, mais on pense que dans l'ensemble, le taux de mutation au cours de l'embryogenèse est quelque peu sous-estimé en raison de l'incapacité de détecter des mutations qui apparaissent dans les premières divisions cellulaires chez les parents par ce genre d'approche. De combien ils sous-estimés, on ne le sait toujours pas. Mais comme on le verra, il existe d'autres approches qui diffèrent de par leur sensibilité au mosaïcisme et qui semblent donner à peu près la même réponse. Donc, du moins chez l'homme, il semble que ces mutations mosaïques qu'on ne voit pas par ce genre d'approche, qui sont un peu invisibles au genre d'approche qu'on a actuellement, n'ont pas une importance énorme sur le taux de mutation obtenu. Outre ces considérations techniques, l'interprétation des estimations de taux de mutation à partir d'études de deux générations présente des subtilités un peu plus d'ordre conceptuel. Donc, comme nous l'avons vu au cours précédent, le nombre de mutations héritées par un enfant dépend de l'âge des parents. Donc, dans ce sens-là, il n'existe pas de taux de mutation par génération. Ce qui existe, c'est un taux de mutation pour un âge parental ou des âges parentaux donnés. Et ça, bien sûr, ça dépendra des familles échantillonnées. Donc, des études peuvent donner apporter des réponses différentes en fonction de l'âge des familles échantillonnées. De plus, et ça aussi, on en a un peu discuté, différents types de mutations varient de par leur taux d'accumulation avec l'âge en fonction de leur source et des taux de réparation au cours de l'ontogénèse. Par conséquent, le taux de mutation qu'on estime à partir d'études de pédigré résulte en fait de plusieurs processus et une valeur composite de différents processus de mutation qui ont des dépendances propres à l'âge et au sexe. Donc, gardant tout cela à l'esprit, qu'est-ce qu'on sait du taux de mutation par génération ? Toutes les études généalogiques à grande échelle font état de taux de mutation similaires par génération. Alors, je vous l'ai déjà dit, de l'ordre de 10 puissance moins 8 par paire de bases par génération, d'un fort biais de mutation d'origine masculine, mâle plutôt que femelle. On en a parlé la semaine dernière, ce ratio alpha qui est à peu près 3, grosso modo du moins, et d'un effet linéaire de l'âge paternel sur le nombre de mutations dont hérite un enfant. Donc on obtient à peu près 2 fois plus de mutations, enfin, l'enfant hérite de 2 fois plus de mutations à peu près d'un père de 40 ans que d'un père de 20 ans. Comme nous en avons aussi discuté la semaine dernière, dans les plus grandes études récentes, on retrouve aussi un effet de l'âge maternel qui, lui, est seulement approximativement linéaire, avec une tendance justement à une augmentation exponentielle pour les mères de plus de 40 ans. Sur ces points qualitatifs, toutes les études en fait sont assez concordantes. Néanmoins, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les estimations des paramètres dans ces diverses études ne sont pas tout à fait en accord. Donc, pour illustrer ce point, je vous présente un tableau qu'on a publié il y a quelques années, résumant diverses études, qui est déjà obsolète par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont apparues depuis. Mais compte tenu de... Et donc, par exemple, vous pouvez voir ici le taux de mutation pour un âge paternel de 30 ans. Alors, vous voyez qu'il varie pas mal selon les études, de plus de 50%. Vu que ces études sont quand même de taille relativement petite, il y a une erreur d'échantillonnage à prévoir, mais les différences de technologie de séquençage et justement de choix de fil bioinformatique, comme je vous le disais tout à l'heure, sont également susceptibles de jouer un rôle. Alors, à titre d'illustration, ce que je vous montre dans la dernière colonne, là, c'est la fraction de mutations qu'on retrouve qui sont d'un type particulier, une transition à un site CPG, donc où on va de CPG à TPG. Or, cette proportion représente de 11 jusqu'à 20%, plus de 20% dans ces études. Et ça, c'est plus concernant déjà, parce que ça, on ne s'attend pas à ce que ça diffère par étude, et ça reflète sûrement les choix de filtres bioinformatiques, justement, selon les études. Parmi les études, il existe également une forte variation de l'âge, l'effet de l'âge paternel estimé. Donc ici, je vous montre l'augmentation de nombre de mutations chez l'enfant pour chaque année supplémentaire de l'âge du père. Et en principe, donc vous voyez que ça aussi, ça diffère beaucoup. Alors, en principe, ces différences d'effet de l'âge paternel entre études pourraient refléter de véritables différences biologiques. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'elles reflètent des différences interindividuelles qui reflètent le taux de division de cellules souches spermatogoniales ou des taux de mutation par division cellulaire. Reste à savoir en pratique si c'est vraiment ce phénomène qui contribue à la variation qu'on voit. Pour ma part, en fait, je soupçonne que justement ces discordances entre études viennent plutôt d'un effet dont on a parlé brièvement la semaine dernière, qui est que dans ces petites études, on ne détecte pas un effet de l'âge de la mère, on détecte seulement l'effet plus fort de l'âge du père, et l'effet de l'âge du père absorbe, en fait, statistiquement, absorbe l'effet de l'âge de la mère. Et donc, après, dans diverses études, il y a différentes corrélations entre l'âge de la mère et l'âge du père qu'il faut qu'on absorbe de plus ou moins dans les différentes études. Et ça conduit à un biais, en fait, dans l'estimation de l'effet de l'âge paternel. Donc, à mon avis, ces divergences entre études quant à l'âge du père seront très bientôt résolues avec des études plus vastes dans lesquelles on peut commencer à distinguer de manière systématique les mutations d'origine maternelle et paternelle. Donc, en résumé, les approches basées sur les pédigrés n'ont pas encore vraiment fourni de réponse définitive sur le taux de mutation à un âge paternel et maternel donné. Cela dit, malgré toutes les différences, elles semblent tous suggérer des valeurs autour de 1,2 à 1,5 fois 10 puissance moins 8 par paire de base par génération à l'âge de 30 ans, qui est grosso modo la moyenne d'âge dans la plupart de ces études. De plus, on a quelques études récentes qui ont utilisé une approche différente pour estimer le taux de mutation en se concentrant sur des segments du génome dans lesquels les deux copies héritées sont identiques par descendance, par exemple parce que l'individu est l'enfant de deux cousins germains. Dans ce cas-là, cet individu aurait en moyenne un 16e du génome identique, en fait. Et dans ces segments autozygotes, toutes les différences entre les deux copies qui viennent d'un ancêtre commun récent sont des mutations qui ont accumulé ou qui ont eu lieu, qui se sont produites depuis cet ancêtre commun. Donc, à moins que le temps de génération pour toutes les générations jusqu'à l'ancêtre commun soit connu, ce taux de mutation a le désavantage d'être une moyenne sur plusieurs âges. Mais en même temps, il a l'avantage d'être défini par rapport à un dénominateur très clair, parce que les segments autozygotes, on sait quand ils commencent, on sait quand ils s'arrêtent, donc on n'a pas le problème de définir un dénominateur. Et en plus, et ça c'est un grand avantage de ces méthodes, en principe du moins, les mutations embryonnaires, donc entre guillemets mosaïques, devraient presque toutes être incluses de manière appropriée, parce que justement on fait la moyenne sur beaucoup de générations. Et donc de manière rassurante, ces méthodes suggèrent également des taux de mutation de l'ordre de 1,5 x 10 puissance moins 8 par paire de bases par génération. Donc, l'année dernière, et je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, une étude de grande envergure a été publiée par la société Decode, et, qui a examiné, enfin, qui a utilisé la même méthode, mais du coup, elle a examiné plus de 1500 trios, et elle a identifié plus de 500 000 mutations germinales dans le génome. Et le taux de mutation qu'elle obtient pour des pères et mères d'âge qui ont 30 ans est de 1,3 x 10 puissance moins 8. Donc prenons ce taux et supposons pour le moment, et je souligne que c'est pas exact, mais supposons pour le moment que le taux de mutation varie de manière, varie linéairement avec l'âge des parents, donc augmente de manière linéaire. Dans ce cas-là, on peut simplement prendre ce taux et diviser par 30 pour avoir le taux de mutation par an. Et donc le taux de mutation par an qu'on obtient, c'est de l'ordre de 4,3 x 10 puissance moins 10. Bon. Alors tout ça pour en arriver à ce taux de mutation par an. Pourquoi est-ce si intéressant d'avoir un taux de mutation par an ? La raison est, à mon avis, l'une des découvertes les plus fondamentales de la biologie de l'évolution. Le fait que les modifications du génome, on observe, s'accumulent de manière plus ou moins constante au fil du temps. Et un résultat qui vient de la théorie de l'évolution moléculaire avancée par Muto Kimura et d'autres, la théorie neutre de l'évolution moléculaire, qui fournit une explication à cette observation, notamment que le taux de divergence sur une lignée évolutive est égal au taux de mutation. Et c'est ce résultat fondamental qui nous permet de nous servir du taux de mutation comme horloge moléculaire, comme on va le voir. En bref, cette théorie émet l'hypothèse que la majeure partie de la variation observée entre les espèces et au sein des espèces est neutre, ce qui signifie que les mutations qu'on observe entre individus et entre espèces n'ont aucun effet sur la capacité de reproduction ou de survie des porteurs de cette mutation. Alors, contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, cette théorie ne requiert pas que les mutations délétères soient rares, même au contraire. Mais étant donné que les mutations délétères sont rapidement éliminée par la sélection, et on en discutera plus longuement la semaine prochaine, elle suppose qu'elle contribue très peu au polymorphisme et pas du tout de manière infime aux différences entre espèces. Cette théorie considère également l'existence de mutations avantageuses, mais suppose que celles-ci sont très rares et de très courte durée dans les populations, alors elle aussi ne contribue pas au polymorphisme. Donc la validité de cette théorie et surtout son champ d'application sont et restent très controversés, mais l'un des résultats principaux est incontestable et c'est ce résultat qui sert de base à l'horloge évolutive et qui permet de dater les événements évolutifs à la fois sur des échelles de temps très courtes et beaucoup plus longs. Alors notamment, cette théorie nous aide à comprendre que les changements génétiques neutres qui se fixent dans la population se fixent dans la population à la vitesse à laquelle ils se produisent. Et ça, indépendamment de l'histoire démographique ou de la sélection naturelle à des sites génétiquement liés. Donc le taux de fixation de mutation neutre est égal au taux de mutation. Alors, il existe de nombreuses façons de démontrer ce résultat de manière rigoureuse, mais l'intuition de base, elle peut être comprise de la manière suivante. Alors, considérez deux moments dans le temps, ces deux moments-là, l'un après l'autre. Alors, on va considérer que ça, c'est au présent, et qu'au temps présent, il y a un allèle neutre, par exemple un C, qui s'est fixé dans la population. Donc ici, la population, elle est représentée par 10 chromosomes, les 10 boîtes, là, qui portent tous un C. Alors, par le passé, ce n'était pas le cas. Il existait de multiples allèles dans la population, un T, un A, un C, etc. Alors, demandez-vous, à ce moment-là, quelle est la probabilité que une de ces allèles, donc le T par exemple, soit celui qui finisse par fixer. Si ces allèles sont neutres, leurs porteurs ne laissent pas plus ou moins de descendants en moyenne que les porteurs d'autres allèles, par définition de la neutralité. Et donc les allèles sont équivalentes et leurs dynamiques sont régies entièrement par la dérive génétique. En d'autres termes, à ce stade-là, la probabilité qu'un des allèles soit fixé dépend simplement du nombre de copies qui existent. Donc ce T, il a une chance sur 10 d'être fixé, ce A, 6 chances sur 10, et le C, 3 chances sur 10. Remontons maintenant dans le passé, jusqu'à la génération où le C est apparu dans la population par une mutation et donc était présente à une fréquence de 1 sur 10, 1 sur le nombre de chromosomes présents dans la population. Quelles sont les chances que ce C ait fini par fixer ? Ben simplement 1 sur 10, puisque c'est le nombre, enfin, sa fréquence dans la population à ce moment-là. Revenons maintenant au taux de fixation de mutation neutre. Si U représente le taux de mutation à chaque génération et qu'il existe 2N chromosomes dans la population, il y aura donc 2NU mutations introduites à chaque génération. Or, ce qu'on vient de voir, c'est que la probabilité qu'une de ces mutations, qu'une mutation donnée finisse par être celle qui est fixe, est de 1 sur 2N, c'est-à-dire le nombre de chromosomes dans la population. Donc on voit que les 2N s'annulent et que le taux de fixation est simplement égal au taux de mutation. Et c'est vrai, encore une fois, quoi qu'il se passe par ailleurs, quel que soit le contexte démographique qui ait donné lieu à l'histoire de ces populations ou à la sélection à l'œuvre sur des sites à proximité. Ce qui est important, c'est que les sites sur lesquels on se focalise, les sites considérés, eux-mêmes sont neutres. C'est-à-dire qu'une mutation à ces sites-là n'affecte ni la reproduction ni la survie. Donc, une implication cruciale est que l'accumulation de fixations neutres au fil des générations fournit un enregistrement du temps qui s'est écoulé dans une lignée évolutive. Et c'est cette horloge moléculaire qui permet ensuite de dater les événements évolutifs. Alors, comment ça se passe en pratique ? Alors, par exemple, comment fait-on pour estimer que quand les humains se sont séparés des chimpanzés à partir d'une estimation du taux de mutation ? Alors, considérez la relation phylogénétique là, des quelques-uns de ces grands singes, un humain, un chimpanzé, un orang-outan, donc un groupe externe ici, et supposez que vous ayez séquencé leur génome et que vous comptiez le nombre de différences survenues dans la lignée humaine depuis la séparation avec les chimpanzés. C'est-à-dire que vous comptez, par exemple, le nombre de positions où, ça c'est un exemple, l'humain porte un A et l'orang-outan et le chimpanzé porte un C. Donc ça, c'est un patron qui correspond très probablement à une mutation survenue dans la lignée humaine de C à A. Et donc, vous vous focalisez sur des sites neutres pour faire ça. Et maintenant, vous vous en servez pour estimer le taux de mutation. Le niveau de divergence qu'on obtient par ce genre d'approche sur la lignée humaine est à peu près de ce niveau-là. Donc, à peu près une position sur 160 a été modifiée le long de la lignée humaine dans le génome. Ce niveau de divergence correspond au temps écoulé depuis la séparation là, avec la lignée de chimpanzé multiplié par le taux de mutation. Et du fait du résultat qu'on vient de décrire, il équivaut donc au temps passé sur la branche humaine multiplié par le taux de mutation. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est le niveau de divergence divisé par le taux de mutation. Et ça, ça nous donne notre estimation de la longueur de cette branche-là. Et donc, quand on fait ça avec le taux de mutation obtenu de l'étude de DECODE et la divergence observée, on obtient ce chiffre d'un temps écoulé de 14,5 millions d'années. Donc, quelques commentaires. Premièrement, il s'agit d'une estimation du temps écoulé depuis le dernier ancêtre commun d'un génome humain et d'un génome de chimpanzé, c'est-à-dire de la date à laquelle ils auraient un ancêtre commun en moyenne. Ce n'est pas une estimation de la date où les populations humaines et chimpanzés se sont séparées. Or, comme les lignages ne peuvent évidemment pas avoir un ancêtre commun tant qu'ils ne font pas partie de la même population, l'ancêtre commun est nécessairement dans la population ancestrale homme-chimpanzé, donc à une date antérieure à la date de séparation des deux espèces. Et cet écart entre la date de séparation des populations hommes-chimpanzés et la date de l'ancêtre commun dépend d'un concept pas très clair en génétique des populations qu'on appelle la taille efficace de la population ancestrale. Ce concept de taille efficace de la population résume en quelque sorte l'étendue de la dérive génétique qui se produit dans la population. Moins de dérives génétiques dans la population ancestrale correspond à une taille de population efficace plus grande, dans quel cas l'ancêtre commun est plus loin de la date de séparation en moyenne. Donc il y a un écart plus grand entre ces deux événements-là. Or, on pense que la taille de la population effective ancestrale homme-chimpanzé était très grande. Donc, il pourrait y avoir au moins 2 millions d'années entre la date de séparation de ces deux populations et la date à laquelle une lignée humaine et une lignée chimpanzé ont un ancêtre commun en moyenne. Donc, en résumé, sur la base de la divergence des grands singes et de la dernière estimation du taux de mutation qui nous vient donc de cette grande étude de la société DECODE qui est basée sur les pédigrés, on penserait que l'ancêtre commun humain-chimpanzé date d'environ 14,5 millions d'années. Et compte tenu de ce que nous pouvons estimer de la population ancestrale homme-chimpanzé, ça impliquerait un temps de séparation entre homme et chimpanzé de à peu près 11-12 millions d'années. Ces estimations, qui sont très controversées par ailleurs, seraient donc, si elles sont correctes, beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait il n'y a pas si longtemps. Presque le double de ce qu'on lit, par exemple, dans les articles d'il y a une dizaine d'années. Donc, je vous l'ai dit, pour la date de séparation homme-chimpanzé, ça reste très controversé. On en écoutera beaucoup plus dans l'intervention de Michel Brunet. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on applique le même genre d'approche pour obtenir la séparation des humains et des orang-outans, par exemple, ou des humains et des singes de l'Ancien Monde, les estimations deviennent nettement moins plausibles à l'avis de tous. Alors, à titre d'illustration, l'utilisation d'un taux de mutation annuel de 0,5 x 10 puissance moins 9, encore une fois ce que suggèrent les études de pédigré, suggère un temps de divergence homme-orang-outan de 31 millions d'années et un temps de divergence entre hommes et singes du Nouveau Monde de 62 millions d'années. Donc ces estimations sont très anciennes, impliquant une séparation homme-orang-outan dans l'Oligocène et une séparation entre grands singes et singes de l'Ancien Monde bien au-delà de l'Éocène. Ces dates-là, je crois qu'il est juste de dire que personne ne les croit compatibles avec les données fossiles primates, du moins actuelles. Donc, tout ça pour dire que les taux de mutation annuels obtenus à partir d'études de pédigré, qui sont quand même une approche très directe, semblent suggérer des dates beaucoup trop anciennes pour qu'elles ne soient plausibles. Donc, une autre façon de voir les choses consiste à prendre le même problème, mais dans le sens inverse. Chercher à estimer des taux de mutation à partir des divergences observées, mais en se basant sur les dates de séparation d'espèces, cette fois-ci obtenues à partir des données fossiles. Alors là, je souligne bien sûr que les dates d'estimation à partir de fossiles sont très indirectes, tout d'abord pour la raison évidente que les fossiles de cette époque restent très rares, mais également parce que l'utilisation de fossiles avec des traits dérivés ne fournit qu'une limite inférieure pour la date de séparation des deux espèces, puisqu'on ne reconnaît un fossile comme humain en particulier, plutôt que chimpanzé, une fois les populations suffisamment distinctes. Donc une complication supplémentaire est que les fossiles permettent de délimiter la date de séparation des espèces, mais pas, comme on l'a vu, la date de l'ancêtre commun. Or, c'est la date de l'ancêtre commun qui est directement reliée au niveau de divergence. Surtout pour des espèces étroitement apparentées, ça pose un grand problème parce que pour les espèces étroitement apparentées, cette différence entre temps de séparation et ancêtre commun est une proportion non négligeable du total. Donc tout ça pour dire que les dates basées sur les fossiles fournissent des données indépendantes extrêmement importantes mais qui comportent néanmoins une grande incertitude. Néanmoins, jusqu'à récemment, le consensus consistait à utiliser des valeurs de 6 à 7,5 millions d'années pour les humains et les chimpanzés, de 15 à 20 millions d'années pour les humains et les orang-outans, et de 25 à maximum 35 millions d'années pour les humains et les singes de l'Ancien Monde. Alors prenons comme exemple 30 millions d'années pour les humains et les singes de l'Ancien Monde, date autour duquel il y a relativement moins d'incertitudes, et en plus des espèces pour lesquelles le temps de divergence est suffisamment ancien pour que justement cette différence entre date de séparation et date de l'ancêtre commun soit négligeable. La divergence moyenne des nucléotides entre les humains, qui sont donc des grands singes, et les macaques rhesus, par exemple un exemple de singe de l'Ancien Monde, est d'environ 6,2%, ce qui suggère un taux de mutation annuel moyen de 10 puissance moins 9 par paire de bases. Un nombre similaire est obtenu si nous utilisons les quelques points de calibration de fossiles dont nous disposons pour les grands singes, ce qui, encore une fois, suggère un taux de mutation de l'ordre de 10 puissance moins 9 par paire de bases. En d'autres mots, les temps de séparation des espèces généralement acceptées suggèrent que l'horloge moléculaire soit beaucoup plus rapide que ce que l'on obtient avec des études de pédigré. Donc, malgré toutes les incertitudes autour de, à la fois, les données fossiles, mais aussi, comme nous l'avons vu, l'estimation du taux de mutation, il est clair que quelque chose ne colle pas dans ces données. Si vous utilisez des données fossiles pour limiter les dates de séparation des espèces, le niveau de divergence accumulé entre les espèces suggère un taux de mutation de 10 puissance moins 9. Si vous estimez le taux de mutation directement à partir de pédigré, vous obteniez la moitié de ce nombre. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, vous demandez du moins, si cette discordance pourrait être due aux effets de la sélection. Peut-être que les positions considérées dans le génome quand on estime le taux de mutation ne sont pas neutres, mais en réalité sujettes à la sélection naturelle. Cette sélection empêcherait alors un sous-ensemble de mutations qui se produisent de se fixer, de sorte que la divergence observée est inférieure à ce qu'elle devrait être sur des sites qui sont réellement neutres. Alors, cette explication est tout à fait possible, elle est même plausible, mais loin de fournir une solution, au contraire, elle aggrave le problème. Parce qu'en effet, dans ce cas-là, la véritable divergence neutre serait encore plus grande et donc c'est encore plus difficile à réconcilier avec la faible estimation des taux de mutation issus d'études de pédigré. Donc ce genre d'explication s'applique sûrement, du moins en partie, mais n'aide pas au contraire. Finalement, vous vous dites peut-être, et c'est l'espoir je crois qu'on avait tous un peu dans la discipline, qu'un écart d'un facteur de 2, ce n'est pas tant que ça, surtout vu que c'est multiplié par 10 puissance moins 8. Mais un facteur de 2, ça correspond quand même à savoir si les humains et les chimpanzés se sont séparés il y a 6 millions d'années ou il y a 12 millions d'années. Donc, assez conséquent quand même pour notre compréhension de l'évolution humaine. Ça a également un impact énorme sur la datation d'événements qui se sont produits plus récemment dans l'évolution humaine. Alors, voici une figure d'un article influent qui a été écrit par Alwyn Scally et Richard Durbin il y a quelques années, qui, à ma connaissance du moins, ont souligné pour la première fois cet écart entre taux de mutation et divergence phylogénétique et en ont souligné les conséquences. Ce que cette figure montre en haut, ce sont, vous le voyez mal, je suis désolée, mais ce sont divers événements d'intérêt dans l'évolution de l'homme moderne. Par exemple, quand a eu lieu la séparation de populations humaines qui a conduit à la sortie d'Afrique des hommes modernes, ou quelles sont les plus anciennes dates de séparation des populations humaines. Alors, ces événements-là de l'évolution humaine peuvent aussi être datés par la même approche générale que celle que je vous ai montrée pour les humains et les chimpanzés. Par exemple, en considérant les dates d'ancêtres communs de personnes échantillonnées dans des populations différentes actuelles. Mais cette incertitude d'un facteur de 2 les rend très incertaines, et c'est ce que vous voyez mal, mais voyez quand même, j'espère, avec ces boîtes remplies et vides. Là, c'est les différences en fait entre les taux de les dates qu'on estimait avant avec l'ancien taux de mutation et le nouveau taux de mutation. Et les estimations actuelles à partir de pédigrés laissent supposer que certains événements, par exemple justement les séparations les plus anciennes entre populations humaines, sont beaucoup plus vieilles que nous le pensions jusqu'à maintenant, et encore une fois plus anciennes que ce que nous savons du fait de données fossiles. Notamment, ça implique un temps de séparation entre populations khoisanes et non khoisanes qui se sont produites il y a plus de 250 000 ans, et donc ça laisserait supposer que l'origine des hommes modernes doit être évidemment antérieure à cette date. Alors, comment réconcilier tout ça? Une possibilité, c'est que le taux de mutation estimé dans les pédigrés, à partir de pédigrés, soit erroné et que les taux réels sont en fait beaucoup plus élevés. Mais comme on l'a vu, malgré le fait qu'il y a quand même une grande incertitude qui subsiste quant au nombre exact du taux de mutation par génération, il existe quand même suffisamment de convergence, du moins à mon avis, entre les différentes études et surtout les différentes méthodes pour être raisonnablement confiant qu'ils ne sont pas aussi inexacts que ça. De plus, il existe une autre source de données dont je ne vous ai pas encore parlé qui suggère que les estimations récentes de taux sont au moins approximativement correctes. Il y a une nouvelle approche, il est maintenant devenu possible d'utiliser des échantillons d'ADN qu'on a recueillis à partir de fossiles et qui sont datés de manière indépendante, plus ou moins fiables, mais dans certains cas assez fiables, par exemple par datation du carbone 14, pour estimer les taux de mutation annuels moyens sur différentes périodes évolutives. Alors, la manière dont ça marche, c'est que ces méthodes comparent la divergence d'un échantillon existant, par exemple un homme moderne, par rapport à un groupe externe, disons un chimpanzé, et comparent cette divergence-là à ce que l'on obtient quand on utilise justement de l'ADN recueilli à partir d'un fossile et qu'on compare la divergence entre ce fossile qui n'a pas été échantillonné au présent, mais qui, disons, date d'il y a 40 000 ans, entre ce fossile et un chimpanzé. Et en fait, c'est cette divergence manquante là, qui sert d'estimation du taux de mutation, parce qu'on en connaît la date, donc on sait sur quelle période cette divergence manquante s'est accumulée. Et quand on applique ce genre d'approche à des échantillons humains archaïques datant des 50 000 dernières années, et ça a été fait une douzaine de fois maintenant, cette approche suggère encore une fois des taux annuels d'environ 0,5 fois 10 puissance moins 10 par paire de base, pardon, 10 puissance moins 9 par paire de base, donc légèrement supérieur peut-être de 10% à ce que l'on obtient à partir de pédigré, mais vraiment très proche. Donc, à supposer que le taux annuel est correct, que faire des valeurs absurdes donc, qu'on obtient pour certaines dates de séparation entre espèces primates ? Ce que Scaley et Durbin ont proposé dans cet article, c'est que les taux de mutation évoluent. En effet, l'approche que je vous ai décrite précédemment, de la manière dont on se sert du taux de mutation pour obtenir des dates dans l'évolution, implique implicitement que les taux de mutation n'évoluent pas, mais qui s'accumule à un taux fixe qui agit comme un métronome pour les événements évolutifs. Si par contre les taux de mutation évoluent, et en particulier s'ils ont ralenti vers le présent, cela pourrait tout expliquer parce que les taux d'estimation, enfin les taux phylogénétiques sont bien sûr mesurés sur des millions d'années, mais les taux qu'on obtient à partir de pédigré sont actuels dans la génération précédente. Et cette explication est plausible. En fait, on sait depuis des décennies que si l'on compare des mammifères éloignés, les taux de mutation annuels varient. Ils ne varient pas énormément, mais ils varient quand même d'un facteur de 3, comme vous le voyez dans cette étude publiée en 2011, où là, les longueurs de branches phylogénétiques sont proportionnelles au nombre de mutations qui se sont produites. Alors, vous voyez par exemple que les rongeurs qui sont là ont accumulé plus de divergences, ont des branches plus longues que, par exemple, les singes qui sont ici. En fait, cette observation, elle remonte à bien plus longtemps que ça, à un article de Wu et Li de 1984, qui comparait quelques gènes à l'époque chez les rongeurs et les primates en utilisant un groupe externe. Et ce que ces auteurs ont constaté pour la première fois, à ma connaissance, c'est que les taux d'évolution ne sont pas du tout égaux au niveau de l'ADN pour la première fois, et que la lignée des rongeurs a accumulé plus de différences depuis l'ancêtre commun avec les primates qu'a accumulé la lignée des primates. Alors, à supposer que ces sites ne soient pas sous sélection, ce patron indiquerait alors un taux de mutation plus élevé par an chez les rongeurs. Alors, à l'époque, les auteurs ont interprété cette différence comme la conséquence du taux de génération plus court des rongeurs par rapport aux primates. Parce que si on suppose que les taux de mutation par génération sont les mêmes, et que les mutations sont dues à des divisions cellulaires, les espèces qui vivent moins longtemps traversent un plus grand nombre de divisions cellulaires par unité de temps et donc devraient connaître un taux de mutation plus élevé par année. Comme nous en avons discuté la semaine dernière, il n'est pas du tout clair que ces hypothèses soient valables. Plus du tout clair, je devrais dire. En particulier, il est possible que la plupart des mutations ne dépendent pas du nombre de divisions cellulaires, comme nous en avons discuté. Et comme nous allons le voir, on commence à être raisonnablement sûr que le taux de mutation par génération n'est pas du tout le même d'une espèce à une autre, même une espèce primate à une autre. Néanmoins, bien qu'on ne soit pas sûr de l'explication, depuis cet article fondateur, cette observation d'un taux variable parmi les espèces mammifères est appelée l'effet du temps de génération, ou generation time effect. Et quelle que soit l'explication, il n'en reste pas moins que les taux de mutation annuels semblent varier d'une espèce mammifère à une autre, et donc il est plausible qu'elle varie aussi entre espèces de primates. C'est ce qu'ont voulu examiner deux anciens postdoctorants dans mon laboratoire en 2016, Priya Morjani et Eduardo Amorim, que je vous montre ici. Et donc pour cela, ils ont considéré des paires de bases qu'on présumait neutres dans les alignements de génome entier d'une dizaine d'espèces de primates. Et ce que je vous montre ici, c'est une figure de leur article où, encore une fois, les longueurs des branches sont proportionnelles au nombre de mutations qui se sont produites. Alors, comme vous le constatez, les branches qui vont de l'ancêtre commun de tous les primates, représentés ici, pardon, jusqu'au présent ne sont pas tous de la même longueur, ce qui indique que le taux de mutation par unité de temps varie entre espèces. Notamment, on observe un taux de mutation plus faible chez les grands singes que chez d'autres primates, une branche plus courte, un effet qui est connu sous le nom de hominid slowdown hypothesis, hypothèse du ralentissement chez les hominoïdes, du nom de l'hypothèse émise par Goodman en 1985. Alors, en faisant ainsi la moyenne sur des millions d'années, il semble que les singes de l'Ancien Monde aient un taux de mutation accru de 40% par rapport aux grands singes. En fait, même si vous vous concentrez sur les grands singes, il y en a trois ici, humains, gorilles et orang-outans, vous constatez une variation significative dans la longueur des branches, avec à peu près 6% de plus de longueur de branche chez le gorille, par exemple, que chez les humains. Donc, les taux de mutation évoluent entre espèces primates, même espèces étroitement apparentées. Bon, pas d'une quantité énorme, mais d'une quantité qui affecte néanmoins notre estimation des âges. Alors, fait intéressant, le degré de variabilité dans ces taux dépend du type de mutation. Alors, voici par exemple une comparaison de ce qu'on observe pour des transitions à des sites CPG. Donc, encore une fois, ça, c'est de CPG à TPG. Et ça, c'est pour d'autres types de mutations. Et comme vous pouvez le constater, et ça, c'est la longueur relative par rapport à l'humain, pardon. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup moins de variations dans la longueur des branches pour les transitions à des sites CPG que pour ces autres types de mutations. Ici, on voit jusqu'à 47% de variations. Ici, on en voit 8% au plus. Nous ne comprenons pas vraiment les raisons pour lesquelles ces sites-là sont moins variables, mais cette différence est probablement due aux sources distinctes des différentes mutations, comme on en a discuté un peu la semaine dernière. En tout cas, ce qui semble le cas, c'est que certains types de sites, tels les CPG, sont plus synchrones. Et ça suggère qu'ils pourraient être utilisés de manière plus fiable pour dater les temps de séparation. Alors, on l'a fait dans cet article. On s'est servi justement que des transitions au site CPG pour appliquer la même approche et estimer le temps de l'ancêtre commun pour les humains et les chimpanzés. Et là, on obtient une estimation de 12 millions d'années plutôt que les 14,5 millions d'années dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, peut-être 9, 10 millions d'années pour la séparation des hommes et des chimpanzés. Quelques millions d'années de moins déjà que l'estimation fondée sur tout le type de mutation confondu. Donc, ce genre d'étude conforte l'idée selon laquelle les taux de mutation annuels varient d'une espèce à l'autre, y compris entre les espèces étroitement apparentées. Et de plus, cette variation pourrait en fait être plus importante que ça à un moment donné, parce que là, c'est des études phylogénétiques, donc il s'agit de moyennes à très long terme sur des millions d'années, mais à un moment donné, on pourrait s'imaginer que ces différents lignages en fait ont des taux de mutation beaucoup plus différents que ça. Alors, ça, c'est des études indirectes basées sur des patrons phylogénétiques. Depuis quelques années, cette question a également été explorée plus directement avec des estimations directes du taux de mutation dans plusieurs espèces recueillies de manière similaire à celle dont nous avons parlé la semaine dernière pour les humains. Alors, selon les espèces, ces études sont basées soit sur des études de pédigré, comme chez l'homme, soit sur des expériences dites d'accumulation de mutations, mutation accumulation experiments. Mais concentrant notre attention sur les mammifères, là, toutes les approches sont basées sur des pédigrés. Il y a quelques estimations qui ont été publiées l'année dernière du taux de mutation par génération. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le taux de mutation par génération. Vous voyez que chez les souris, par exemple, par rapport à chez les humains, là, le taux de mutation chez la souris est à peu près la moitié de ce qu'on voit, par génération, est à peu près la moitié de ce qu'on voit chez l'homme. Alors, puisqu'une souris vit 2-3 ans et que la génération humaine a une durée, disons, d'environ 25 à 30 ans, ça suggère que le taux de mutation des souris par année est d'environ 5 fois supérieur à celui des humains. Ce qu'on ne voit pas tout à fait dans les données phylogénétiques, dans les données phylogénétiques, on voit plutôt une différence de 2-3 que de 5 entre hommes et souris, vraisemblablement parce que depuis l'ancêtre commun de l'homme et de la souris, les deux lignées évolutives ont mis un certain temps avant de différer en termes du nombre de générations, du temps de génération. Alors, une autre demi-douzaine d'études a été publiée récemment, notamment pour les primates. Alors, par exemple, il y a une étude qui est sortie le mois dernier qui publie une estimation du taux de génération chez les Dourou-Coulis, un singe du Nouveau Monde, que je vous montre ici. Alors, cette étude estime un taux de mutation de 0,8 × 10⁻⁸ par génération pour une durée de génération en moyenne de 6 années. Donc, encore une fois, en supposant de manière approximative que les taux de mutation soient strictement proportionnels à l'âge, ça suggérait un taux de mutation par an de 1,3 fois 10 puissance moins 9, soit 3 fois supérieur à ce qu'on estime chez l'homme à partir de pédigré. Alors, je précise que ces estimations et d'autres estimations pour les primates non humains sont très incertaines parce qu'elles sont basées sur un très petit nombre de pédigrés. Mais ces résultats suggèrent quand même que le taux de mutation annuel varie considérablement chez les primates, ce qui complique bien sûr toute tentative de dater les événements en utilisant des taux estimés uniquement chez l'homme. Alors, non seulement avons-nous des preuves, de plus en plus de preuves que le taux de mutation par génération et par an varie d'une espèce à l'autre, mais au cours des deux dernières années, on a de nouveaux indices qui montrent que, en fait, différentes populations humaines diffèrent aussi par leur taux de mutation. Alors ainsi, il y a un article de 2016 qui a examiné la relation entre 300 génomes de très haute qualité échantillonnés de par le monde et qui a mis en évidence une augmentation de la longueur des branches chez les individus non africains, donc européens et asiatiques, ce qui correspond, ils estiment, à une augmentation d'à peu près 5% de la longueur des branches des populations européennes et asiatiques, donc un plus grand taux de mutation annuelle. De plus, dans une étude très ingénieuse, par ailleurs, publiée en 2015, Kelly Harris a montré que non seulement le taux de mutation total varie d'une population humaine à une autre, mais les profils de mutation semblent aussi évoluer. Alors pour ce faire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a examiné les mutations dans leur contexte immédiat dans le génome, donc une mutation et les deux paires de bases adjacentes. Et considérant en fait de manière symétrique les mutations sur les deux brins de l'ADN, elle obtient ainsi 96 différentes combinaisons de mutations possibles. Et ensuite, elle les teste un par un pour savoir si le nombre de mutations d'un type particulier observé dans un échantillon de population, disons européenne, asiatique, etc., diffère de ce que l'on observe dans les autres populations. Et ces résultats sont montrés ici. Donc sur l'axe des ordonnées, il y a la valeur de P, et sur l'axe des abscisses, l'excédent d'un groupe par rapport à un autre. Et ce que vous voyez, c'est que certains types de mutations, dont ce TCC, là, de TTC à TCC, sont beaucoup plus représentés dans certains échantillons, ici l'échantillon de la population européenne, que d'autres populations. Donc les taux de mutation varient entre populations, mais les types de mutations varient aussi entre populations. Alors pourquoi ? En fait, on devrait s'attendre à ce que le taux de mutation par unité de temps soit pas stable pour plusieurs raisons. Déjà, nous avons supposé que le taux de mutation augmente strictement proportionnellement avec l'âge, mais en fait, ce n'est pas le cas. En réalité, le taux de mutation n'augmente pas strictement de manière linéaire de la naissance à la reproduction. En conséquence, en variant l'âge moyen de reproduction des parents, on obtient un petit effet sur le taux de mutation annuel. C'est ce que montre le panel A, que je vais vous expliquer, de cette figure d'un article de Hamster et Sella qui est paru il y a 2 ans. Alors, cet article examine comment le taux de mutation annuel dépend des traits d'histoire de vie, comme l'âge de la reproduction et l'âge de la puberté, à partir de données humaines sur la mutation germinale qui ont été publiées en 2012. Et il se base sur un modèle où les mutations ont tous une origine réplicative, donc dépendent du nombre de divisions cellulaires. Donc, vu ce dont on a discuté la semaine dernière, les détails du modèle sont peut-être à revoir. Néanmoins, les conclusions qualitatives sont valables et, à mon avis, cet article montre la voie à suivre si on veut chercher à réconcilier les taux de mutations qu'on obtient et les données fossiles. Alors, je vais vous demander de les considérer en plus de détails. Alors, sur l'axe des ordonnées, là, est indiqué le taux de mutation annuel. Et sur l'axe des abscisses, le ratio de l'âge du père à l'âge de la mère à la conception. Je vous expliquerai, je reviendrai sur les raisons de ce choix. Alors, pour l'instant, je vous demande de comparer la courbe bleue, là, à la courbe rouge, qui correspond à un âge reproductif des parents de 18 ans ou de 32 ans. Et vous voyez qu'il y a une petite différence dans le taux de mutation annuel que l'on obtient, surtout pour le chimpanzé. De plus, ce que soulignent les auteurs de cet article, c'est que le taux de mutation annuel dépend non seulement du temps de génération moyen par sexe, mais également de l'âge moyen à la reproduction des hommes et des femmes séparément. Alors ça, à mon avis, c'est quelque chose qui n'était pas apprécié dans le domaine de la biologie évolutive, du moins à ma connaissance. Mais la raison, c'est que chez les hommes, le taux de mutation de la lignée germinale dépend beaucoup plus fortement de l'âge à la procréation que chez les femmes. Donc, pour le même âge parental moyen, les taux de mutation sont plus bas lorsqu'un enfant est né d'un père jeune et d'une mère âgée que d'un père âgé et d'une mère jeune pour la même moyenne d'âge. Par conséquent, la modification du rapport entre le temps de génération des hommes et des femmes peut avoir des effets importants sur le taux de mutation annuel, même si la moyenne de l'âge reste fixe. Par exemple, si on considère une gamme de rapports allant de 0,92 à 1,26, comme celle qui est observée pour les grands singes actuels, on obtient jusqu'à 10% de différence dans le taux de mutation annuel. Alors c'est ça en fait qu'illustre cette figure-là du panel A de leur article, où les estimations justement du rapport de l'âge reproductif chez l'homme et chez la femme sont montrées pour le chimpanzé pour C, le gorille et l'homme. Alors au-delà des effets de temps de génération, le temps de mutation annuel varie en fonction de tout changement héréditaire dans les traits d'histoire de vie. Et ça c'est ce que illustre le panel B là. Vous y voyez la dépendance du taux de mutation annuel à l'âge de la puberté. Or, nous savons que chez les primates actuels, le début de la puberté diffère considérablement, d'environ un an chez les Ouistiti à 6 à 13 ans chez les grands singes, et il en va de même pour d'autres traits d'histoire de vie. Donc, non seulement les traits d'histoire de vie peuvent évoluer, mais on sait qu'ils ont évolué chez les primates. Et cette évolution introduit une incertitude supplémentaire dans le taux de mutation annuel attendu à un moment donné dans le passé. Et de plus, ces traits d'histoire de vie influencent le taux de mutation de manière combinée, donc en fait, il faudrait modéliser leur coévolution. Finalement, jusqu'ici, nous avons parlé des changements dans le taux de mutation annuel du fait du développement et des traits d'histoire de vie, mais une autre source d'évolution se produit au niveau cellulaire en termes de processus de mutation de l'ADN, donc les taux d'erreur de réplication, de dommages à l'ADN, de réparation de l'ADN pourraient aussi avoir évolué au cours de millions d'années. Et nous avons vu, par exemple, que les Européens, mais pas les Africains ou les Asiatiques, présentent un taux accru d'une mutation spécifique de TTC à TCC. Cette observation soulève la possibilité de récents changements évolutifs dans le processus de mutation lui-même. Donc, plus généralement, on ignore la mesure dans laquelle les différences des taux de mutation que l'on observe entre populations et espèces sont attribuables à des changements intervenus dans les traits d'histoire de vie, dans le développement des cellules germinales, dans les modifications génétiques ou même dans l'environnement. Par exemple, on pourrait imaginer dans la concentration de mutagènes externes. Mais toutes ces considérations montrent qu'obtenir une horloge moléculaire à partir de données généalogiques n'est pas du tout aussi simple que ça paraît. La raison principale, c'est qu'il n'y a pas vraiment, ça n'existe pas le taux de mutation par an. Tout ce qui existe, c'est un taux de mutation moyen pour un ensemble donné de traits d'histoire de vie paternelle et maternelle, y compris les âges à la puberté et la reproduction. Et on sait que ces traits sont variables parmi des primates même étroitement apparentés. On sait qu'il existe une variation héréditaire pour ces traits, même parmi les humains. Par conséquent, on s'attend, en fait, a priori, à ce que les espèces de primates diffèrent considérablement à la fois en termes du taux de mutation par génération, mais aussi par an. Donc le fait qu'on s'attende a priori à ce que les taux de mutation annuels soient instables pose des difficultés évidentes quand il s'agit d'utiliser le taux de mutation comme horloge évolutive. Alors une solution consiste à modéliser explicitement les changements de traits d'histoire de vie au cours de l'évolution des primates et à étudier leur impact sur les taux de substitution. Alors, c'est justement ce qu'ont fait Amster et Sella dans cet article. Ils ont proposé un modèle qui estime les divergences et les temps de séparation entre espèces en tenant compte des spécificités d'histoire de vie et de reproduction propres à chaque sexe. Alors je vous montre ici encore une fois une figure de leur article. Les ronds et les carrés, là, par contre, représentent leur interprétation des limites inférieures et supérieures imposées par diverses découvertes de fossiles. Les croix représentent les dates que l'on obtiendrait par une estimation naïve basée sur le taux de mutation actuel, mais sans tenir compte de la dépendance du taux de mutation annuel par rapport aux traits d'histoire de vie. Et vous voyez que si vous comparez simplement les croix et que vous vous posez la question de savoir si les croix tombent entre les cercles et les carrés, la réponse est non. Donc il y a cette incompatibilité dont on parlait tout à l'heure. Alors les lignes, par contre, représentent les valeurs possibles lorsqu'on prend en compte justement cette évolution des traits d'histoire de vie et leur impact sur le taux de mutation annuel. Et comme vous le constatez, dans ces cas-là, il est au moins théoriquement possible de réconcilier les données fossiles et les taux de mutation actuels, simplement en permettant aux traits d'histoire de vie de changer au cours du temps, comme cela semble très plausible. Alors, comme je l'ai souligné, malgré l'importance de cet article, Il suppose que les mutations sont tous d'origine réplicative, ce qui ne paraît pas être le cas, comme on en a discuté lors du dernier cours, et ce qui vous aide à comprendre pourquoi le dernier cours, justement, portait sur cette question. Donc la prochaine étape, à mon avis, consistera à étendre leur modèle afin d'envisager séparément les mutations réplicatives et non réplicatives et de comprendre ce qui pourrait se passer dans ce contexte plus général. En outre, à mesure que des estimations plus fiables des paramètres de mutation deviennent disponibles, en étudiant non seulement des humains, mais d'autres espèces de primates, on devra revisiter les modèles pour les prendre en compte. Malheureusement, il subsistera certaines incertitudes parce qu'on ne connaîtra jamais les traits d'histoire de vie à toutes les époques de par le passé. Une approche complémentaire dont nous avons déjà parlé, qui deviendra sûrement plus courante, consiste à utiliser des échantillons d'ADN anciens avec une date connue, ou du moins qu'on pense connaître, indépendamment, pour estimer les taux de mutation annuels moyens sur différentes périodes de l'évolution. Parce qu'en étudiant de nombreux échantillonnés de ce type, distribués au cours des dernières dizaines de milliers d'années, on pourrait potentiellement ainsi obtenir une espèce de gamme de calibrage pour l'horloge moléculaire qui permette ensuite d'ajuster les distensions et les contractions du taux de mutation annuel sur différentes périodes. Alors, pour résumer, les taux de mutation estimés à partir de pédigrés sont deux fois plus faibles que ceux suggérés par les données fossiles. En d'autres termes, les taux de mutation actuels prédisent des temps de séparation entre espèces de primates trop anciens pour qu'ils ne soient crédibles. Une possibilité est que les taux de mutation parents évoluent, et en particulier ont ralenti vers le présent. Ça paraît tout à fait plausible parce qu'on sait que les taux de mutation annuels évoluent d'une espèce à une autre, même d'une population humaine à une autre, bien que l'on ne comprenne toujours pas pourquoi. Cependant, il est clair maintenant que la conversion entre mutation et divergence est beaucoup moins évidente qu'elle ne le paraît au premier abord, et notamment que cette conversion dépend de caractéristiques de traits d'histoire de vie de l'espèce, et en particulier du rapport de l'âge reproductif chez les hommes par rapport aux femmes et de l'âge à la puberté. Alors, pour aller de l'avant, je pense qu'on a besoin d'estimation du taux de mutation pour plusieurs primates et aussi pour plusieurs populations humaines. Comme je l'ai souligné le cours dernier, en fait, on a des estimations du taux de mutation que pour des populations européennes, d'ailleurs presque que pour des Islandais, donc il serait bien d'en avoir pour d'autres populations. Et aussi, il serait très utile d'obtenir des estimations de taux de mutation à partir de divergences manquantes, donc de ces approches basées sur les fossiles dont on arrive de plus en plus à séquencer le génome. Pour le moment, je pense qu'il est quand même prématuré de conclure que les taux de séparation des primates sont beaucoup plus anciens que ce que le suggèrent les découvertes fossiles. On a beaucoup plus de chemin à faire pour comprendre vraiment comment est-ce qu'on part d'un taux de mutation estimé dans un pédigré pour en arriver à une conclusion définitive sur les temps de séparation des espèces primates. Cependant, pour les derniers 100 000 ans, période sur laquelle nous disposons de beaucoup plus d'informations, notamment en raison justement de ces études de divergence manquante chez les fossiles dont on a pu séquencer l'ADN, il semble en effet que les dates de séparation des différentes populations humaines sont probablement beaucoup plus anciennes que nous le pensions tous, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Alors, sur ce, je prendrai volontiers quelques questions, puis je vais laisser la parole au professeur Michel Brunet, que vous connaissez tous, je pense, donc il n'a pas besoin d'introduction, mais qui est donc l'un des éminents spécialistes de cette question en paléontologie. Merci.